Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Nous allons parler, faire la suite d'un échange que nous avons déjà eu la dernière fois, qui était sur la volonté. La volonté, les volontés. Et là, donc c'était le numéro 475 du catéchisme. Là, je vais aller prendre le en bref. Je rappelle que dans le catéchisme, il y a évidemment tous les articles du catéchisme, mais quelque chose de très intéressant pour ceux qui veulent se plonger dedans. À la fin de chaque chapitre, il y a ces en bref, donc des petites perles de théologie qui permettent déjà d'entrer dans
des petits condensés, concentrés.
Oui. Exactement. Oui. Et donc, sur cette question de la volonté humaine du Christ, je lis l'en bref numéro 482. Le Christ, étant vrai Dieu et vrai homme, a une intelligence et une volonté humaine parfaitement accordées et soumises à son intelligence et à sa volonté divine qu'il a en commun avec le Père et le Saint-Esprit. L'autre fois, nous parlions de volonté voulante et volonté voulue. Donc, si je reprécise, cette volonté voulue, on met derrière ça le dessein de salut de Dieu, l'objectif visé par Dieu.
L'objectif, exactement.
Voilà. Et volonté voulante, c'est en Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, la volonté divine comme la volonté humaine vont aller vers ce même dessein, vers ce même but de salut de Dieu. Je crois que c'est important peut-être de bien comprendre ça et de le préciser quand même.
Et effectivement, la difficulté, c'est de se dire que comment ont-elles pu être accordées ? Parce que c'est sûr qu'une volonté divine est toute puissante, elle est marquée par tous les attributs divins, et le Fils, dans sa divinité, la partage avec le Saint-Esprit et le Père. Donc, elle s'appuie d'une manière totalement déterminante. Et on pourrait se dire, comment cette pauvre petite volonté humaine qui est créée peut-elle s'ajuster, s'accorder avec la volonté divine ? Eh bien, je dirais que le Concile de Chalcédoine avait d'une certaine manière prévu la réponse, puisqu'il nous a enseigné qu'il y avait une perfection des deux, la perfection de la nature divine, mais aussi la perfection de la nature humaine, qui lui a permis donc cet ajustement vers ce but du dessein d'amour bienveillant qui passait par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous lis le texte 451 de ce qu'on appelle le Concile de Chalcédoine. À la suite des Saints-Pères, nous enseignons unanimement à confesser un seul et même Fils. C'est la vieille expression que nous avions déjà trouvée chez Saint-Irénée, ce un seul et même Fils, qui était la façon très ancienne de parler de l'unité de personne de notre Seigneur en deux natures, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en divinité et parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment homme, composé d'une âme rationnelle et d'un corps, consubstantiel au Père selon la divinité, consubstantiel à nous selon l'humanité. Et ces expressions donc du numéro 467, qui retrace le Concile de Chalcédoine, nous montrent bien qu'il y avait donc deux volontés en Jésus-Christ, une volonté divine qu'il partageait de par sa nature divine avec le Père et le Saint-Esprit, et une volonté humaine. Or, cette volonté humaine était parfaitement respectueuse de l'anthropologie humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il y avait en lui, eh bien, des éléments qu'il tirait de cette union de l'âme et du corps, qui est ce que nous disions dans un récent entretien, ce qui lui venait du fond de son être, de ses tripes, qui lui faisaient ne pas vouloir mourir, parce que ça appartient au grand mouvement de notre être, la conservation de l'être, comme le fait de se nourrir. Ce sont des vivacités très, très grandes, des options, je dirais, qui sont déterminantes de notre être. Ne pas vouloir mourir, nous maintenir en vie et aussi transmettre la vie. Par exemple, dans le couple, il y a ces mouvements intérieurs qui correspondent à cette vitalité que Dieu nous a donnée sur la terre, où nous avons à nous maintenir. Et donc Jésus a connu cette vitalité de survie, je dirais. Donc il l'a senti en lui d'une manière très forte, et elle aurait pu être suffisante pour déterminer sa volonté de choix, sa volonté délibérante, au point de dire « je préfère ma conservation dans l'être plutôt que d'aller à ce martyr ». Et il a senti cette tension, mais parce que sa volonté était parfaite, eh bien, il a su dépasser cette orientation qu'il ressentait en lui-même, cette inclination au maintien de la vie. Eh bien, il l'a dépassée en disant « Je choisis la volonté que j'ai avec le Père et le Saint-Esprit de par ma volonté divine ». Et parce qu'il avait une volonté parfaite, donc une capacité à faire que cette inclination inférieure, je dirais, de son être, parce que ce sont des inclinations un peu inférieures, parfois on les domine pas tellement, vous voyez, la reproduction parfois crée dans l'homme, marqué par le péché originel, des tensions qui montrent bien qu'il n'est pas tout à fait harmonisé, il y a en lui quelque chose qui est fracassé. Or Jésus, il n'y a aucun fracas, il est indemne du péché originel. Mais il a suivi dans la descendance d'Adam, à travers la Vierge Marie, un corps qui est cependant capable de mourir et qui est faillible. Que ce soit son corps, que ce soit son âme, elles étaient avec des defectus, dit saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire avec des capacités de faiblir. Or, cette volonté parfaite qui était entièrement en même temps aidé par le Saint-Esprit, eh bien, a été capable de surmonter cette inclination de la nature à la survie et a ajusté donc sa volonté voulante supérieure de son âme à cette volonté voulante de sa divinité pour ce même but que nous avons appelé ensemble la volonté voulue. Et ainsi Jésus est rentré dans sa passion librement. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. C'est-à-dire que Jésus a voulu montrer jusqu'au bout qu'il restait maître de la situation. Au moment du jardin de Gethsémani, il faut se souvenir que les gardes qui venaient l'arrêter ont été obligés d'abord de s'écraser par terre. Ils ont été renversés. Jésus a voulu montrer qu'il restait le maître. Et sur la croix, il est mort avant même de recevoir les coups d'achèvement que les soldats sont venus porter sur ses deux compagnons de misère, le bon larron et le mauvais larron. On leur a brisé les jambes pour les achever, mais lui a voulu remettre l'esprit avant. Il n'a pas voulu mourir du coup de lance, il était déjà mort. Et il a montré que donc, c'était librement qu'il mourait, c'est que sa volonté supérieure assumait parfaitement cette inclination à la survie qu'il ressentait dans son corps. Il est entièrement déterminé par le Saint-Esprit.
Il reste que, quand on pourrait se dire, ouh là là, tout ça c'est une spéculation intellectuelle, certains pourraient le penser presque inutile, mais rien qu'en t'écoutant parler, je me dis, ça dit à quel point l'expérience humaine, la condition humaine aux yeux du Dieu créateur est digne de beauté, digne de grâce, et ça dit la grandeur de notre condition humaine. Nous sommes sauvés intégralement en tout notre être, mais finalement quand on voit l'incarnation du Christ, c'est vraiment assumer pas une condition de misère, c'est une condition qui est appelée à être, c'est beau aux yeux de Dieu.
Oui, c'est beau aux yeux de Dieu, et en même temps, il ne faut pas, à cause de cette beauté humaine, ravaler la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape Pie XII, dans Saint Paternus Rex, qui est une encyclique de septembre 1951, le redit: très opposé à la foi de Chalcédoine, est aussi une opinion assez répandue hors des frontières de la religion catholique. Maintenant, on pourrait dire même dans les frontières, par le biais de l'exégèse protestante. On a cru que c'était une exégèse scientifique, mais comme disait le grand Bultmann, il n'y a pas d'exégèse sans précompréhension, donc sans dogme par derrière. Et donc on a laissé s'infiltrer une exégèse qui avait une précompréhension selon d'autres courants théologiques. Et donc, on n'est plus du tout hors des frontières de la religion catholique. Maintenant, on rencontre des catholiques qui imaginent ce que nous allons entendre, à laquelle un passage de l'apôtre Paul aux Philippiens, Philippiens 2,7, « Et kénosène, il s'est vidé de lui-même, témérairement, dit Pie XII, et faussement interprété, a donné occasion à un semblant d'apparence, on l'appelle la doctrine kénotique. Elle imagine une limitation de la divinité du Verbe dans le Christ, invention, dit Pie XII, détestable, aussi condamnable que son contraire, le docétisme, et qui réduit tout le mystère de l'incarnation et de la rédemption à de vains et pâles fantômes. Dans une nature intègre et parfaite, et il cite le grand pape Léon le Grand, d'homme véritable, enseigne magnifiquement Léon le Grand, est né un Dieu véritable, tout entier en ce qui est sien, tout entier en ce qui est nôtre. Et par là, le pape Pie XII a mis en garde, vous voyez, parce qu'on pourrait tenter de magnifier tellement cette dimension humaine de Jésus qu'on en oublierait qu'elle est restée quand même soumise à sa divinité. Et c'est quand même la divinité qui a entraîné l'humanité. C'est cette volonté voulue divine qui a entraîné cette volonté voulante, je dirais, humaine, pour qu'elle reste ajustée en tout temps.
Oui. Alors, pour moi, c'est que l'homme réapprenne la beauté de sa... De son humanité, si il laisse la grâce de Dieu travailler en lui, et que la grâce de Dieu travaille en l'homme, et non pas notre humanité n'est pas à jeter, quoi.
Ouais, notre humanité doit être magnifiée à travers effectivement l'expérience divino-humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous aider effectivement à rendre grâce pour d'avoir reçu un tel don qui sauvé peut rentrer dans la christo-conformité. C'est quand même assez extraordinaire de penser qu'on peut rentrer dans les pas de Jésus.
Merci, frère Edouard.